Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec
Cédric Auriol de Micronutris.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, chacun peut se targuer d'avoir des centaines, voire des milliers d'amis, ou en tout cas baptisés comme tels. Des milliers d'amis devant qui on va étaler toute pudeur et retenue perdue. On va étaler, bien sûr, sa vie privée, ses humeurs, ses malheurs, ses joies, sa famille, et j'en passe. Zuckerberg a été un excellent visionnaire. Il a su, avant tout le monde, inventer le système qui permet de sortir de son isolement et d'avoir l'impression que l'on vit en compagnie d'une communauté immense, situé partout dans le monde, avec qui on est relié en permanence. Belle utopie, belle idée, belle réalisation technique aussi, et au final un succès planétaire. Mais toute médaille a son revers, et ce qui aurait pu passer pour un formidable projet humaniste nous montre aujourd'hui sa face cachée et la perversité de ses algorithmes. Et nous comprenons alors que nous sommes l'objet d'une vaste manipulation essentiellement destinée à siphonner notre intimité, nos goûts, nos tendances, nos travers, notre personnalité, et à en nourrir un vaste fichier mis à la disposition du plus offrant. Les datas sont devenues la nouvelle marchandise mondiale, chassée et recherchée par tous. Ce faisant, Facebook a montré une nouvelle fois le peu de cas qu'il fait de notre vie privée. Cela étant, Zuckerberg avait, à ses débuts, affiché ses intentions en traitant les gens qui lui confiaient leurs données, et je le cite, « de gros abrutis ». D'où la question, est-ce que ce réseau social, et d'autres avec lui, n'est pas devenu un danger pour la démocratie en ce qu'il est un outil de manipulation de nos pensées, de nos opinions politiques, de nos habitudes de consommateurs. Le scandale Cambridge Analytica a mis le feu aux poudres. Ce cabinet de conseil qui avait travaillé pour la campagne de Trump avait eu accès aux données personnelles de millions d'utilisateurs du réseau social. On parle de 87 millions de personnes, excusez du peu. Des journaux américains et britanniques ont révélé l'affaire le 17 mars. Le réseau social, pris de court mais certainement très ennuyé par ces révélations gênantes, a mis beaucoup de temps à réagir, notamment par son dirigeant Mark Zuckerberg, qui a exclu toute démission de sa part. Mais il a quand même fini sous la pression par reconnaître, et c'est important, que Facebook est responsable de son contenu. Grande avancée puisqu'il a fallu 15 ans pour le dire et le reconnaître. 15 ans durant lesquels la haine, le racisme, le complotisme, l'apologie du terrorisme ont pu avoir droit de cité sans que le réseau s'en émeuve. Ainsi d'ailleurs que l'usurpation d'identité et la contrefaçon, comme par exemple Millennium Multiple, celle que le canard enchaîné a subie à ses dépens. Alors face à ces dérapages à répétition, certains, et surtout aux USA, se sont interrogés sur le point de savoir si l'État ne devait pas, d'une part, mieux protéger les données personnelles, à l'instar de ce que fait l'Europe avec son règlement sur la protection des données, c'est important, qui rentrera en vigueur le 25 mai de cette année, et d'autre part, adopter une position encore plus radicale en démantelant purement et simplement les GAFA, Google, Facebook, Apple ou Amazon, qui iraient à l'encontre des lois du capitalisme et se faisant briser leur monopole. Rappelons que l'année passée, Google et Facebook ont capté les deux tiers des dépenses publicitaires et Amazon 75% de la vente des livres sur Internet aux États-Unis. Une opération radicale que les Américains ont déjà réalisée par le passé en démantelant la Standard Wall, aussi puissante durant la première décennie du XXe siècle que le sont aujourd'hui les géants de la Silicon Valley. Des entreprises surpuissantes, notamment sur le plan économique, accusées de pratiquer l'évasion fiscale à grande échelle, sans parler bien sûr des risques qu'elles font courir aux libertés publiques et individuelles. Bref, chacun doit être vigilant et s'interroger sur l'usage qu'il fait de ce qui ne devait être que des outils, mais des outils devenus gigantesques et dominateurs et qui menacent à présent notre vie privée. Là, on peut faire le parallèle entre celle-ci et l'environnement. L'une comme l'autre peuvent être détruites par un marché non réglementé. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie un homme qui a plusieurs casquettes pour une même activité, éleveur, entomologiste, cuisinier, visionnaire et agitateur culturel. Il veut faire de nous des entomophages et dans une région comme l'Europe, ce n'est pas un mince pari. Bonjour Cédric Auriol.
Bonjour Jacques.
Et bonjour Géraldine Pellet, docteur en géographie, spécialiste du goût, auteur d'un très beau livre, d'un livre même surprenant par sa forme et son contenu, coécrit avec le chef toulousain Michel Sarran. Et donc elle est venue ce soir déjà se rôder un peu au micro parce que bientôt vous allez pouvoir l'entendre dans une émission et puis interroger avec nous Cédric Auriol. Alors je viens de prononcer un gros mot, Cédric Auriol, j'ai dit entomophage. Qu'est-ce que c'est qu'un entomophage ?
Alors un entomophage, ça va être un être humain qui consomme des insectes. Donc entomo qui signifie insecte et phage la notion de manger. Donc c'est un mot qui est apparu il y a seulement quelques années dans le dictionnaire, même s'il était utilisé depuis des décennies. Il a fait son entrée au Petit Larousse en 2016, je crois. Donc un mot de plus en plus fréquent et qui, je l'espère, sera de plus en plus utilisé.
Eh bien, on l'espère aussi pour vous. On n'a pas encore, enfin pour ce qui est dans le studio, on n'a pas encore goûté, mais on s'y prépare. Comment ça vous est venue cette idée ? Parce que je crois que vous avez fait l'école de commerce.
Oui, alors
il y a de drôles de zouaves à l'école de commerce, mais il n'y a pas d'insectes.
Non, il n'y a pas d'insectes, mais cette idée, elle m'est venue de manière très, très rationnelle. Moi, j'ai un passé d'entrepreneur et avant, je travaillais dans le négoce de textile et d'emballage. Et en 2011, j'ai eu envie de créer une activité de production en France qui répondait à des enjeux de développement durable. Et je suis tombé, alors un peu par hasard, sur un article qui évoquait la consommation d'insectes pour faire face aux défis alimentaires. Et ce sujet m'a passionné. Et à cette époque-là, où j'étais en quête d'une aventure entrepreneuriale avec plus de sens, j'ai osé franchir le pas de développer une activité dans ce secteur qui était très, très innovant et étonnant à l'époque.
Oh, ça l'est toujours autant étonnant pour nous, mais on va certainement y venir. C'est assez gonflé, si vous me permettez quand même de vous lancer là-dedans. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le seul en France à le faire ou il y en a d'autres ?
Alors, il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui vont être actifs dans ce secteur de l'entomophagie, le fait de consommer des insectes. Par contre, avoir la casquette d'éleveur, transformateur et de développeur de produits à base d'insectes comestibles, notre entreprise reste encore unique en France.
Bon, bah écoutez, on va voir ça. Mais alors, vous avez dit mieux nourrir la planète. Ça veut dire que pour vous, dans un avenir relativement proche, la planète ne pourra pas se nourrir avec les moyens classiques, au moins ceux qu'il y a en Europe, parce que manger des insectes, on y viendra certainement. La planète le fait depuis très longtemps, et même dans l'histoire, les Grecs et les Romains mangeaient déjà des insectes. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau, mais on a un peu perdu ça de vue. Donc avec les formes classiques d'élevage, vous pensez que la planète ne pourra pas survivre, au moins ses habitants ?
Alors voilà, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Donc il y a un contexte global dans lequel on sait que d'ici à 2050, on va devoir produire 70% de protéines de plus au niveau mondial et que nos modes de production actuels ne vont pas être suffisants pour relever ce défi alimentaire. Et donc pour faire face à ce défi, il y a plusieurs solutions qui existent. Alors les insectes comestibles, ça en est une, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi tous les travaux autour des protéines végétales, autour des micro et des macro-algues. Et même, alors là c'est quelque chose qui peut encore relever de la science-fiction, mais on parle de plus en plus aussi de viande de synthèse. Donc moi la vision que je porte en tant que fondateur de Micronutrice, c'est pas de dire qu'il y a une solution ultime qui va faire... qui va nous permettre de faire face aux défis alimentaires, mais que ça va être la combinaison de solutions et d'initiatives qui vont permettre de relever ce défi qui est réel, qui est de produire 70% de protéines en plus d'ici à 2050.
Oui, 2050, c'est demain, hein. Géraldine, un commentaire là-dessus ?
Oui, non, je voyais que vous aviez une approche assez mesurée et respectueuse aussi de toutes les manières de s'alimenter. Vous n'êtes pas opposé justement à la consommation de viande, mais juste à la consommation en fait, de viande de pâturage et pas forcément, voilà, de régime végétarien ou uniquement basé sur, sur la consommation d'insectes.
Oui, alors nous, on n'est pas... Alors quand je dis nous, je parle au nom de l'entreprise, parce que oui. Dans l'équipe, on partage tous les mêmes valeurs. On n'est pas du tout des ayatollahs de l'insecte, c'est-à-dire que demain, on va devoir manger que des insectes. Au contraire, aujourd'hui, innover dans des modes de production qui vont être plus durables, ça permet aussi de conserver nos modes de production traditionnels. Et vraiment, la vision que je porte, c'est aussi de dire que la meilleure alimentation pour l'être humain, c'est une alimentation variée. Donc des fois, il y a des gens qui me rencontrent et qui me regardent avec des grands yeux en me disant « Mais attendez, demain, on va manger que des insectes » et qui sont un peu effrayés. Et moi, je leur dis « Non, non. Manger des insectes, c'est un aliment qui peut vraiment s'incorporer dans une alimentation variée, qui a d'excellentes qualités nutritionnelles et environnementales qui permettent de relever ce défi alimentaire et de faire face à ces enjeux. Mais on n'est pas là du tout pour remplacer ou se substituer au mode de production traditionnel. On est là pour proposer une nouvelle alternative qui permet de produire des nutriments dans un contexte où ce n'est pas possible d'en produire autrement.
Justement, du point de vue des qualités nutritionnelles, c'est, je pense, la question que se pose tout un chacun sur, voilà, sur la qualité en termes de protéines et en même temps en termes d'oligo-éléments, de vitamines, enfin de nutrition pour le corps humain. Et qu'en est-il de la, des qualités nutritionnelles des insectes par rapport à la viande rouge, à la volaille, à tout ça.
Alors, donc, les insectes... alors déjà, les insectes, c'est un mot très générique. Et moi, j'ai coutume de faire le parallèle entre les insectes et les champignons. C'est-à-dire que déjà, tous les insectes ne vont pas être comestibles et tous les insectes ne vont pas avoir les mêmes qualités nutritionnelles. Donc, nous, les insectes qu'on va élever chez Micronutris, ce sont le ténébrion et le grillon. Qui ont des qualités nutritionnelles assez proches.
Qui est le ténébrion ? Parce que le grillon, tout le monde le voit, mais le ténébrion, c'est un peu ténébreux, justement, si vous me permettez.
Alors, le ténébrion, c'est un petit scarabée. Et donc, à l'état larvaire, ça va être une larve qu'on appelle aussi communément le ver de farine. Et qui va se. Après, alors, c'est un peu technique, mais qui va se nymphoser. Donc, c'est comme le cocon ou la chrysalide chez le papillon. Et ensuite, qui va se transformer en, eh bien, en petit scarabée. Donc, les qualités vraiment nutritionnelles de ces deux insectes-là, ça va être une très forte teneur en protéines. Donc, on va avoir 60% de protéines avec tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est vraiment des protéines complètes qu'on peut comparer aux protéines animales classiques. On va ensuite avoir des minéraux avec une forte teneur en fer, en magnésium, en calcium. Et on va avoir des acides gras, mais plutôt de type insaturé, comme notamment des oméga-3. Donc moi, j'ai coutume de dire que les insectes, ça va être le meilleur compromis entre le monde végétal et le monde animal, parce qu'on va avoir la qualité des protéines animales et on va avoir les intérêts des acides gras qu'on va plutôt retrouver dans le monde végétal.
Comment vous êtes venu ? C'est un peu technique tout ça, c'est même un peu scientifique. Comment vous êtes venu ? Il a fallu que vous appreniez. Vous êtes allé où pour apprendre tout ça ?
Alors, les choses que je connais sur les insectes comestibles, je les ai vraiment appris en autodidacte, parce que vu que c'est quand même un secteur qui est nouveau, il n'y a pas de formation ou de diplôme qui existe. Et la chance que j'ai eue dans l'aventure entrepreneuriale de Micronutris, c'est dès le début de pouvoir m'entourer d'un docteur en biologie spécialisé en sciences de l'insecte et d'un ingénieur agronome spécialisé en production animale conventionnelle. Donc à trois, avec des visions différentes, des centres d'intérêt différents et des connaissances différentes, on a pu développer une filière, développer un secteur. Et moi, vu que je suis passionné, je me suis formé pour devenir aujourd'hui un des experts de ce secteur encore innovant qui est le secteur des insectes comestibles.
Alors l'intérêt aussi de l'insecte, on vient de parler de ses qualités nutritives, c'est aussi que vous pouvez les élever sans qu'il y ait du gaz à effet de serre et des rejets, ce qu'il n'y a pas du tout dans l'élevage classique, qui rejette lui beaucoup par contre de gaz à effet de serre.
Alors c'est un des avantages énormes de la production d'insectes, c'est qu'un élevage d'insectes va rejeter 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de viande classique. Et donc, il y a deux principales raisons pour expliquer cela. Bon, la première raison, c'est que les insectes vont dégager peu ou pas de méthane. Et la deuxième raison, c'est que les insectes, ce sont des animaux qui sont dits à sang froid. Donc, ça veut dire que la majeure partie de la nourriture qu'ils vont manger, ils peuvent l'utiliser pour grandir parce qu'ils n'ont pas besoin de produire de chaleur. Et donc, ils vont bien mieux convertir la nourriture qu'on leur donne. Donc là où avec 10 kg d'aliments, on va produire 1 kg de viande bovine, avec ces mêmes 10 kg d'aliments, on va pouvoir produire jusqu'à 7 kg d'insectes. Donc ça veut dire 7 fois moins de surface au sol pour la culture des aliments, moins d'eau pour irriguer les sols, moins de pétrole pour le transport. Donc cet excellent taux de conversion se traduit directement par un rejet 100 fois moindre de gaz à effet de serre.
Alors pour l'instant, vous élevez deux insectes, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait manger. Alors il fait un peu la liste, fourmis, criquets, hannetons, chenilles, papillons, larves de coléoptères, sauterelles, les punaises d'eau, j'ai même lu. Ça veut dire qu'un jour, vous allez ouvrir un peu à tous ces animaux, ces insectes ?
Je vois que le sujet vous intéresse et là, vous nous mettez en appétit.
Oui, je ne sais pas si on est encore en appétit, mais j'avoue que je serais très curieux de goûter. Alors, tout à l'heure, on m'a mis un peu au défi dans le studio, mais je serais très, très curieux de goûter, oui.
Alors déjà pour rebondir, parmi tous les insectes qui existent, il y a déjà 2000 espèces d'insectes qui sont réputées comestibles. Donc ces insectes-là sont identifiés comme comestibles parce qu'ils sont issus de consommations traditionnelles dans des pays et des cultures qui en consomment déjà régulièrement, donc notamment en Asie, en Afrique, en Amérique centrale.
Australie aussi, je crois.
En Australie.
Ils sont assez portés là-dessus, surtout les bushmen.
Oui, tout à fait. Donc finalement, la consommation d'insectes, elle est très généralisée tout autour du monde. Et il y a juste cette période en Occident où on consomme plus d'insectes, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quelques siècles, on consommait des insectes de manière très régulière, y compris en Occident. Donc nous, par contre, Micronutrice, on n'a pas l'ambition d'élever de nouvelles espèces d'insectes à court terme. L'enjeu pour nous, c'est d'être au début d'une filière en maîtrisant vraiment l'élevage de nos insectes actuels, des espèces qu'on fait actuellement, et en développant des produits qui sont faits à partir de ces insectes-là. Alors pourquoi ? C'est parce que chaque insecte va être dans une logique d'élevage qui va être différente. Donc vouloir passer... par exemple, du grillon au hanneton, ce serait faire le même grand écart que vouloir passer de l'élevage de poulet à l'élevage bovin. Et donc nous, vraiment, on concentre notre savoir-faire sur deux espèces qui sont le ténébrion et le grillon.
Ça veut dire qu'il faut un savoir-faire très particulier pour chaque insecte, si je comprends ce que vous m'avez dit ?
Alors oui, parce que chaque insecte va avoir besoin de conditions particulières, de température, d'humidité, d'alimentation, suivant son stade de développement. Et c'est un savoir-faire qui est très spécifique. Alors nous, on le maîtrise bien pour deux espèces, mais ça nous a pris 7 ans de recherche et développement pour maîtriser ces savoir-faire-là. Et l'enjeu pour nous, c'est maintenant de plutôt faire grossir notre production sur ces espèces-là plutôt que se développer sur d'autres.
Et alors, comment on élève ils ne sont pas dans la terre, ils sont dans des bacs, vous pouvez un peu nous décrire tout ça, parce que je n'imagine pas du tout pour l'instant comment ça se passe.
Alors, déjà, si vous avez l'occasion un jour de passer à Saint-Aurens, vous êtes le bienvenu.
Je vous le promets que je vais venir.
Pour visiter la ferme. Donc l'élevage des insectes, donc c'est un élevage qu'on fait en intérieur. Donc, on a recréé plusieurs espaces qui reproduisent les écosystèmes suivant le stade de développement de l'insecte. Donc, on va faire accouplement, ponte, éclosion, croissance.
Il n'y a pas de traite, là, c'est l'avantage.
Non, il n'y a pas de traite. Mais dans ce secteur-là, il y a quand même beaucoup de manipulations humaines. Et donc, on peut faire le parallèle avec la traite. Un des enjeux d'élevage d'insectes, ça va être la robotisation et l'automatisation pour permettre de minimiser la multitude de manipulations humaines nécessaires qui n'est pas très valorisante et pas très intéressante pour pouvoir faire baisser le prix de revient de la production d'insectes.
Manipulation, c'est-à-dire parce que ils sont dans des bacs, sur quel territoire ? Comment ça se passe ?
Alors, ils sont généralement en phase de croissance, ils sont dans des bacs, ouais, dans lesquels on va leur amener une alimentation. Donc, l'alimentation qu'on leur donne, elle est 100% végétale issue de l'agriculture biologique. Ça va être des farines de céréales et des fruits et légumes frais. Et ensuite, dans ces bacs, on va aussi trouver des sources d'hydratation. Donc, typiquement, on va mettre de l'eau, tout simplement. Et les insectes se développent. Et donc, une fois qu'ils sont, par exemple, dans le cadre du ténébrion, une fois que la larve est à maturité, on va avoir le stade de nymphose. Donc, il va falloir manuellement trier, sélectionner chaque insecte pour pouvoir alimenter notre parc de reproducteurs. Alors, c'est un peu technique ce que je vous raconte là, mais
Technique.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans le monde de l'infiniment petit et qu'il y a énormément de manipulations humaines et que c'est un vrai défi.
Comment vous les manipulez avec les mains ? C'est ça, non ?
Maintenant, vu qu'on a 7 ans de recul, on a développé des machines spéciales qui nous permettent de trier, sélectionner, calibrer nos insectes de manière beaucoup plus simple et automatique.
C'est des machines qui existaient, ça, ou c'est vous qui les avez créées ?
Alors, on les a créées.
Parce que ça n'existait pas avant, on ne sait pas calibrer des insectes.
Non, on ne sait pas. Donc, c'est ça qui est fantastique avec ce projet, c'est que c'est vraiment une nouvelle filière, une nouvelle industrie qui se met en place. Donc, tout est à inventer. Et donc au début, il y avait des insectes qu'on sélectionnait à la pince à épiler. Donc c'était vraiment des heures et des heures de travail pour produire simplement quelques centaines de grammes d'insectes. Et heureusement, on est arrivé à rationaliser ce travail-là pour être sur quand même quelque chose qui est un travail qui est beaucoup plus agréable pour les gens qui travaillent dans l'entreprise que faire des actions répétitives très très minutieuses.
On parle des grillons, et je ne me représente pas le volume, combien de grillons, enfin vous savez peut-être mal, le nombre d'ailleurs, ça se quantifie le nombre d'animaux que vous avez ?
Alors ça se quantifie, je me suis amusé un jour à faire le calcul du nombre d'insectes total qu'il y avait dans notre ferme à un instant donné, donc en comptant tous les âges et tous les stades. Donc on a environ 500 millions d'insectes en permanence dans notre ferme.
Comment vous avez pu les compter ? Vous les avez mis au garde à vous, ils n'ont pas bougé, vous avez compté
On les a comptés, ils ont tous un nom différent, donc c'est un peu difficile de s'en souvenir, mais on y arrive très bien. Non, trêve de plaisanterie, non, on les gère, on connaît le nombre d'insectes par volume, et donc en multipliant les volumes, on arrive à avoir des estimations qui nous permettent d'arriver à ce chiffre-là.
Ils vivent entassés ou ils ont de l'espace comment ça fonctionne ? Parce que des grillons dans la nature, on en voit. Tout le monde est allé tuter les grillons. Moi, quand j'étais gosse, j'avais la petite cage, on mettait le grillon, le pauvre. Mais j'imagine mal comment... Ils sont noirs, vos grillons ?
Alors, nous, on travaille sur le grillon domestique. Donc, il est un peu plus clair que le grillon champêtre qu'on peut s'amuser à tuter l'été. Il est un peu plus petit. Et donc, alors pour vous donner un chiffre, nous, dans les bacs de croissance qui doivent faire environ 1 mètre cube de grillons, on va avoir environ 40 000 grillons. Et si on veut faire un parallèle avec la viande, 40 grillons, ça va être l'équivalent d'une portion de viande.
Donc, j'allais poser la question, oui, ça m'intéressait de savoir comment vous transformiez. Oui. 40 grillons, si on mange 40 grillons, on a une portion de viande de 300 grammes à peu près, c'est ça ?
Alors, 300 grammes, c'est non. Parce que vous êtes généreux.
Oui, mais plutôt pas, ça dépend, mais une belle entrecôte.
Mais plutôt 250 grammes, quoi.
On fait une première pause. Il faut digérer toutes ces informations-là, en attendant de digérer les grillons et leurs camarades. C'est vous qui avez fait le premier choix et vous nous avez amené quoi donc ?
Eddy de Préto, Fête de trop.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide emmoussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, lui de paillettes et me réduit au chaos.
Voilà, vous êtes bien sur Esprit Occitanie. Nous retrouvons notre invité, Cédric Oriol. Je ne sais pas pourquoi. Cédric, je vais vous rebaptiser, Cédric Oriol. et Géraldine Pellé qui nous accompagne ce soir dans cette aventure animale. Alors, on parlait, vous nous parliez bien sûr de votre ferme des insectes. Il y a un aspect quand même des choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous nous disiez comment ça s'est passé. Vous avez fait beaucoup de R&D, c'est nouveau, donc il faut des sous. Ou vous êtes richissime et vous êtes un parti, c'est parfait, pas pour moi bien sûr. Ou alors vous êtes allé voir des financiers et là quand même ça n'a pas dû être simple le parcours pour leur dire on va créer une ferme d'insectes, on va gagner des sous avec ça, prêtez-nous 500, 1 million, 2 millions, comment ça s'est passé ?
Alors ça s'est passé que j'ai eu le luxe d'avoir un passé d'entrepreneur qui m'a permis de constituer des fonds propres suffisamment significatifs pour financer le début de la R&D.
Donc vous avez financé vous-même ?
Ouais, j'ai financé moi-même le début de l'activité. Mmh. Ce qui était important, parce qu'en 2011, se faire financer de la production d'insectes pour l'alimentation humaine, c'était impossible. Alors évidemment que ce soit auprès du monde bancaire, mais même auprès de capitaux risqueurs, c'était quelque chose de compliqué.
Déjà, se faire financer une activité qui marche, ça relève de l'exploit, hein, parce que les banquiers font par leur travail aujourd'hui. Ils ne prêtent qu'à ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Alors là, vous êtes allé chercher la difficulté dans ce secteur plus que nouveau.
Voilà, mais après, ça a été un choix d'entrepreneur d'investir sur fonds propres. En 2015, par contre, on a fait du financement participatif. Donc on a travaillé avec la plateforme qui s'appelle WeSeed. Mmh. Et donc elle nous a permis de nous mettre en contact avec 300 investisseurs, personnes physiques, qui ont mis entre 100 et 10 000 euros chacun. Donc ça nous a permis de faire un premier tour de financement extérieur. Et donc là, on est très fiers d'avoir au capital de Micronutrice une holding avec 300 investisseurs qui échangent très régulièrement avec nous sur une multitude d'aspects, que ce soit pour faire des connexions avec leur réseau, avec des revendeurs, des magasins qui peuvent revendre nos produits. On en a quelques-uns qui ont des talents de photographes, donc qui mettent en scène nos produits pour qu'on puisse alimenter notre site web, nos réseaux sociaux, etc. Voilà. Et depuis maintenant une petite année, on commence à être un peu plus sexy auprès des banques. Et donc, dans le cadre d'une extension, on a pu financer une partie de nos investissements matériels auprès de partenaires bancaires.
C'est cher, il faut beaucoup d'argent pour lancer ça. Alors, il y a la R&D d'un côté et les équipements de l'autre. C'est des volumes importants.
Alors après, tout est relatif et quand on parle d'argent, c'est toujours une question d'échelle. Là, nous, sur le projet Micronutrice à date, on a investi 2,5 millions d'euros. Donc c'est quelqu'un qui veut se lancer, un particulier, s'il n'a pas une équipe ou s'il est... C'est pas évident parce que pour mettre... moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui sont en situation... qui sont au chômage, qui veulent être en reconversion et qui veulent se lancer dans l'élevage d'insectes. Moi, je dis vraiment de faire attention parce que soit l'élevage d'insectes ou toutes les activités de production, on a besoin de temps et de capitaux pour mettre en place, pour se mettre en place tout simplement. Quoi.
Donc, c'est plus le Larzac ou Notre-Dame-des-Landes à l'époque où n'importe quel babacool pouvait se lancer dans le mouton ou dans la vache.
Après, tout le monde peut le faire, mais il faut un peu de ressources. Et après, moi, ce que je dis aussi souvent, de manière plus générale, quand on croit un projet et qu'on est motivé, on arrive toujours à trouver la solution pour le faire exister et le rendre réel.
Oui, c'est souvent quand même un grand parcours du combattant. Les collectivités locales, l'État vous a aidé ?
Alors, on a la chance de bénéficier d'un dispositif qui, dans notre cas, est très, très utile. C'est le crédit impôt recherche. Donc, 30% de nos frais de R&D nous sont redistribués sous forme de crédit d'impôt. Et là, depuis quelques mois, on a eu la bonne nouvelle d'avoir un retour positif de la région Occitanie qui nous accompagne sur nos projets d'export et nos projets d'extension.
Vous faites de l'export ?
On démarre. On a démarré il y a 2 ans et là, ça commence à prendre forme avec quelques pays qui réagissent bien.
Pays européens ou vous allez plus loin ? Parce qu'on sait que les autres pays mangent des insectes. Donc pour eux, on ne va pas être très novateur. Par contre, ici, on l'est.
Alors, c'est vrai, mais avec l'approche qu'on a avec Micronutrice, on amène quelque chose de nouveau, même dans les pays qui consomment traditionnellement des insectes. Parce que jusqu'à présent, les cultures qui consommaient des insectes, ça allait plutôt être des insectes prélevés dans la nature et qui allaient être... frits ou grillés rapidement. Et nous, on amène cette notion de gastronomie française.
J'allais vous le dire, vous êtes l'emblème de la gastronomie française. Là, on va la renouveler sérieusement. Géraldine, vous qui donnez beaucoup de temps aux restaurateurs et aux bons restaurateurs.
Oui, justement, je me posais la question de savoir de la sensibilisation au goût à travers, voilà, à travers ce produit qui est surprenant pour notre culture à nous. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pays donc, qui cuisinent, qui ont l'habitude de cuisiner les insectes. J'ai trouvé des recettes très intéressantes en Thaïlande, en Afrique, en Colombie. Et justement, je me demandais de savoir comment est-ce que vous travaillez cette manière de rendre bon à manger les insectes à travers des recettes, à travers des opérations de sensibilisation. Comment ça se passe ?
Alors, ça se passe de deux manières. Déjà, avec notre métier d'éleveur, où grâce à notre travail, on arrive à améliorer le goût de nos insectes, comme va le faire un éleveur bovin ou un éleveur de volaille de manière traditionnelle.
Et ça, quel goût justement un insecte ?
Alors, le goût de l'insecte, c'est un goût qui est assez subtil. Donc, on va retrouver des notes d'arachide torréfié, de maïs, de noisette. Et vraiment, la manière dont on va élever l'insecte et dont on va le transformer, on va pouvoir marquer son goût. Donc, pour vous donner un exemple qui va parler à tout le monde, c'est nos insectes, pendant les dernières semaines de leur maturation, si on leur donne de la farine de châtaigne, ils vont développer des notes et des arômes de châtaigne qu'on va ensuite pouvoir retrouver dans l'assiette. Donc, on fait ce premier travail, déjà en tant qu'éleveur, où on essaye vraiment de développer les qualités gustatives et aromatiques de nos insectes. Et après, il y a ce second travail qui va être de travailler avec des chefs qui vont pouvoir créer des recettes pour sublimer le produit.
Et vous travaillez justement avec des chefs cuisiniers. Quelles recettes vous avez mis au point sur, c'est sur les produits que vous distribuez qu'on peut trouver dans pas mal d'épiceries. Ou est-ce que ces recettes sont destinées à des événements
Alors, si on va sur le site, on en voit quand même. Hein, amuse-bouche aux insectes, salade d'insectes et chèvre chaud. Alors pour le lotois que je suis, le chèvre chaud, bon, je n'avais pas pensé à le marier avec des insectes. Ravioli chinois au grillon et verre de farine. Au grillon, jusque-là, ça va. Après, verre de farine, psychologiquement, pizza aux insectes, quiche au ténébrion. C'est spécial quand même.
Alors, c'est spécial.
Qui c'est qui a mis au point ces recettes ? C'est vous, avec tes chefs, avec...
Alors là, les recettes qui sont sur le site web, elles ont principalement été envoyées par des clients à nous, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est passionnée et qui interagit avec nous. Donc on a des gens, sans qu'on leur demande rien, qui nous disent « Ah, bêta, j'ai cuisiné avec mes petits-enfants ce week-end tel ou tel type de recette. » Et donc c'est de ces informations-là que sont extraites les recettes qu'il y a sur le site web. Mais sinon, on a travaillé avec différents chefs, dont certains qui ont même des étoiles au Michelin. Et une création que j'ai beaucoup aimée, c'était une demi-sphère de whisky au grillon. Donc en termes de visuel, on a vraiment l'impression de voir de l'ambre. Et ensuite, quand on a le produit en bouche, on va d'abord avoir le moelleux et le goût du whisky. Et ensuite, on va tomber sur le craquant du grillon avec ses notes de maïs. Et le jour où j'ai goûté ce produit, vraiment, je me suis dit que c'est possible de faire de la haute gastronomie avec les insectes. Alors depuis, on a développé énormément de recettes et on a quelques chefs qui travaillent les insectes au quotidien dans leur cuisine. On a même un chef sur Paris qui a un restaurant et un menu dédié aux insectes, que ce soit entrée, plat, dessert, mise en bouche, mignardise, autour de l'insecte. Donc à partir du moment où on le voit comme un ingrédient, la seule limite, c'est l'imagination.
Et à Toulouse, vous avez des chefs qui vous ont un peu accompagné ou pas ? On a quand même d'excellents cuisiniers à Toulouse. Enfin, je pars sous le contrôle de Géraldine, qui les connaît bien, mais vous avez travaillé ?
Alors, on a rencontré quelques chefs sur Toulouse qui ont fait un peu de création pour nous, après qui ont décidé de ne pas mettre les insectes à leur carte, parce que par rapport à leur image, c'est vrai que le produit était nouveau et ils avaient des interrogations sur l'image qu'ils pourraient avoir autour des insectes. Donc je pense qu'il faut encore attendre quelques années avant que des grands chefs toulousains le mettent à leur carte.
Géraldine, est-ce que Michel Sarran, dans le livre que vous avez fait, j'ai bien regardé, mais vous ne parlez pas d'insectes.
Non,
est-ce,
pas
qu'il,
du
est-ce,
tout.
Que, est-ce qu'il s'y est intéressé ? Vous n'avez jamais parlé avec lui de ça ?
Non, j'en ai jamais parlé, non.
Ouais, ça va être l'occasion.
Il n'est pas peut-être. Très végétarien, déjà.
Donc... Oui, oui. C'est vrai. Voilà. Alors, les insectes, comment vous les préparez ? Parce qu'ils sont à maturité, on l'a dit tout à l'heure. Il faut les tuer. Comment vous les tuez ?
Alors, on va les travailler comme des crustacés, donc par une phase d'ébouillantage. Donc, ça permet de les pasteuriser et de les rincer. Et alors après, vu qu'on est sur des produits qu'on travaille uniquement en sec, donc ça nous évite d'avoir à gérer une chaîne du froid, on va les déshydrater. Et ensuite, à partir de l'insecte déshydraté, c'est vraiment notre matière première. Et on va pouvoir faire toute notre gamme de produits, de l'insecte apéritif au biscuit, en passant par la barre énergétique, les chocolats, les pâtes.
Et vous les mélangez, les insectes et les télémbryons, ce sont deux insectes différents qui vont donner lieu à deux plats différents ?
Ça dépend des produits. On a un produit découverte où on va retrouver des insectes aromatisés pour l'apéritif. Donc là, on les mélange parce que c'est vraiment l'occasion de faire vivre une expérience un peu ludique et étonnante. Mais sinon, lorsqu'on incorpore les insectes dans des produits finis, on le fait pour principalement les qualités nutritionnelles et gustatives. Et donc là, on va vraiment segmenter les espèces d'insectes qu'on utilise.
Vous vendez des plats préparés ou vous ne vendez que les insectes sous vide pour préparer ces plats ?
Alors non, on vend des produits finis aux insectes, donc mais notamment des chocolats sur lesquels on va positionner des insectes sur le dessus. Alors c'est des produits gourmands, c'est pour découvrir de manière non traumatisante les insectes comestibles. On a aussi des pâtes, alors c'est des pâtes dans lesquelles on va retrouver de la poudre d'insectes. Donc ça permet d'avoir des pâtes très riches en protéines et sans avoir besoin de rajouter une portion de viande ou de poisson, on va avoir un plat équilibré. En ajoutant quelques légumes, une petite sauce végétale, on se régale.
Combien vous traitez d'insectes en volume par an ? Ça a un sens cette question ?
Oui, donc en 2017, on aura traité 25 tonnes d'insectes.
Oui, ça fait beaucoup quand même, 25 tonnes d'insectes, non ?
Alors en nombre d'individus, c'est énorme.
Oui, en volume. On a envie de... Micronutrice aujourd'hui est à l'équilibre, peut-être qu'elle gagne des sous d'ailleurs, ce qu'on vous souhaite.
Alors aujourd'hui, on a fait le choix de continuer à investir de manière très significative en recherche et développement, en s'axant vraiment sur deux axes. C'est développer les produits de demain aux insectes, en allant notamment sur des steaks d'insectes, enfin vraiment des produits qu'on pourrait consommer tous les jours à partir d'insectes. Et on a un deuxième pan en recherche et développement, qui est l'amélioration de notre savoir-faire industriel. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, on n'est pas rentable. Après, si on faisait le choix de couper nos activités de recherche et développement, on pourrait équilibrer les comptes entre notre activité commerciale et notre activité de production.
Ouais. Comment vous renouvelez l'élevage ? Ils se renouvellent entre eux, j'imagine. Là, il n'y a pas de problème. C'est des bestioles qui sont très... sexuellement très agité, non ?
Oui.
Ils
oui.
se reproduisent entre eux, vous n'avez pas besoin de vous en occuper.
Alors si, il faut s'en occuper. Donc nous, mais comme un éleveur classique, on va sélectionner les meilleurs insectes, étalons.
Vous avez des étalons ?
On a des étalons, alors qui sont beaucoup plus petits que les autres étalons auxquels on pourrait penser. Mais donc on fait vraiment une sélection des reproducteurs et qui vont nous permettre de récolter les meilleurs œufs pour démarrer.
Ça fait que vous lâchez les reproducteurs à des moments bien définis ou parce qu'il faut les récupérer après ?
Alors on est sur une production qui est organisée de manière périodique et donc chaque génération est bien segmentée par rapport à son âge et à son stade de développement. Donc on arrive à avoir l'ensemble des reproducteurs d'une espèce qui arrive à maturité au même moment, dans le même espace. Donc c'est assez simple à gérer.
Et au niveau des autres variétés, comme vous avez dit tout à l'heure, ce ne serait pas intéressant d'avoir une palette plus large que les deux que vous avez cités, le télémbryon et le... On nous avait dit que c'est des techniques totalement différentes, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant pour Micronutrice d'avoir une palette plus large ?
Alors, pour Micronutrice, à court terme, ça va être difficile. Par contre, ça va être intéressant que d'autres entreprises se créent sur cette filière-là et travaillent et développent un savoir-faire spécifique sur les autres espèces d'insectes comestibles qui sont intéressantes.
Pourquoi vous avez choisi ces deux-là, d'ailleurs ?
Alors, ces deux-là, donc nous, on a élevé jusqu'à 7 espèces d'insectes différentes au sein de l'élevage. Et vraiment, ces deux espèces, ça va être le meilleur compromis entre plusieurs choses, donc les qualités nutritionnelles, le faible impact sur l'environnement de leur élevage. C'est aussi des espèces dites endémiques, c'est-à-dire qu'à l'état naturel, on pourra les retrouver en France. C'est aussi des espèces qui sont dites types en biologie, donc on a une très bonne connaissance sur tous les virus et les pathogènes qui pourraient les toucher. Donc le meilleur compromis de tous ces facteurs a fait qu'on a fait un focus sur ces deux espèces.
D'accord. Et vous produisez pour l'alimentation animale ou pas du tout ? Parce qu'on a pris la désagréable habitude de nourrir les animaux avec d'autres animaux, hein, notamment toutes ces farines animales ou autres. C'est aussi votre créneau ?
Alors nous, ce n'est pas notre créneau, ce n'est pas dans notre ADN, parce que historiquement, on est une société qui produit des insectes pour l'alimentation humaine. Après, le fait de nourrir des insectes pour l'alimentation animale, c'est quelque chose qui fait sens, parce que, par exemple, les poissons ou les volailles, c'est dans le sens commun que même à l'état naturel, elles vont consommer des insectes.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment une alimentation qui peut être adaptée et saine à la production animale. Donc ce n'est pas aujourd'hui le cœur de l'activité de Micronutrice, mais c'est quelque chose qui peut faire sens.
Si je vais chercher mes grillons dans la nature, là, sur mes causes du Lot, et si je goûte les vôtres, est-ce que je vais sentir une différence ?
Alors oui, vous allez sentir une différence parce que déjà, ça ne va pas être la même espèce. Ils ne vont pas avoir grandi de la même manière. Mais pour les gens qui nous écoutent, je tiens quand même à attirer l'attention sur le fait que consommer des insectes qu'on collecterait dans la nature, c'est quelque chose à vraiment faire avec des experts, parce que tous les insectes ne sont pas comestibles. Et si ces insectes ont été en contact avec des produits chimiques ou des pesticides ou des métaux lourds, ils peuvent les accumuler. Donc il faut vraiment être sûr qu'on est sur une espèce d'insecte comestible et qu'on les prélève dans un environnement
où il n'est pas baigné dans la soupe Monsanto, par exemple.
Exactement. Et donc, c'est vraiment important de faire attention à ça et de ne pas aller ramasser des insectes à droite à gauche pour les manger demain.
Je n'avais pas pensé jusque-là, mais bon, je vais commencer par les vôtres. On fait une deuxième pause musicale. Alors, celle-là, c'est Géraldine qui l'a choisie. Hein, oui, je lui ai laissé le choix. Vous avez choisi qui ?
Guts.
Guts. Ouais. Qui nous chante quoi ? Non, je sais pas.
Qui nous chante Hip Hop After All.
Ladies and gentlemen,
voilà, la conversation se poursuivait pendant le morceau musical, mais on est toujours sur Esprit Occitanie, c'est Cap Cap, notre invité Cédric Auriol, et Géraldine Pellet qui était en train effectivement déjà de lui poser des questions. On ne vous a pas entendu, elle était déjà rentrée dans le sujet, alors vous allez reposer votre question. Que tout le monde en profite.
Je me posais la question de savoir si, si vous organisiez dans des lieux relais où vous distribuez vos produits, des moments justement de dégustation, de découverte de vos produits et du goût des insectes, à la fois par les produits que vous transformez et en même temps en collaboration avec des chefs.
Alors, on fait régulièrement déguster nos produits. Donc, depuis 2011, on a fait déguster nos produits à plus de 1 million de personnes à travers différentes foires, marchés, salons. Et on était dernièrement au dernier salon de l'agriculture. Et donc, pendant ce salon, alors évidemment, on avait notre stand sur lequel on a fait déguster nos produits. Mais que ce soit et la Haute-Garonne et la région Occitanie ont mis à notre disposition des espaces dans lesquels on a pu faire venir des chefs qui ont pu mettre en situation et jouer avec nos produits pour les faire découvrir au public lors de ce salon.
Alors, est-ce que Macron est venu toucher le cul des grillons?
Alors, il n'est pas venu physiquement sur notre stand lors du salon de l'agriculture, mais j'ai reçu un courrier de sa part qui nous disait qu'il avait un regard bienveillant sur le développement de cette activité. Donc, peut-être qu'un jour, nous le recevrons dans notre élevage.
On va lui poser la question. On va le recevoir ici et après, on l'amènera à Saint-Thorens. Comment vous distribuez? Il y a tout un réseau de distribution. Vous avez des commerciaux qui tournent. Vous avez des magasins dédiés. Comment ça se passe?
Alors, nous, on va plutôt travailler avec la distribution spécialisée. Donc, nos produits sont principalement disponibles en épicerie fine et magasins bio. Et puis après on les trouve aussi dans certains commerces un peu atypiques, donc à Toulouse on est dans une célèbre parapharmacie par exemple, et nos produits sont aussi distribués via internet parce qu'on a une communauté de 40 000 personnes qui nous suit et qui achètent directement nos produits via le web.
Alors les produits, j'ai regardé un peu les prix, c'est quand même pas donné, c'est plus cher que le biscuit apéritif normal. Mais j'imagine aussi que c'est parce que c'est le début et que le volume n'est pas là.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, la consommation d'insectes, on va encore être sur des prix qui sont relativement chers si on les compare à des produits de consommation courants. Mais ça n'a pas tendance, enfin ça a tendance à ne pas être un état de fait. Mais le prix des produits à base d'insectes risque vraiment de baisser dans les années à venir, en passant par le développement de cette filière et par le fait que notre savoir-faire est de plus en plus efficace. Et donc les économies qu'on fait sur notre production, on pourra les traduire directement en prix plus bas pour le consommateur.
Alors les consommateurs, vous avez des retours, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est un effet de curiosité. Il y a des gens qui sont accros et qui déjà ont intégré dans leur cuisine, dans leur culture, vos insectes ou pas?
Alors c'est vrai qu'on a un public, alors c'est très marginal à l'échelle de la population française, mais on a un public de fans où on a des gens qui vont vraiment cuisiner, manger des insectes très régulièrement, et limite c'est vraiment une passion pour eux de manger ces insectes-là.
Comme tout, c'est une éducation, donc je pense qu'une fois qu'on a passé la barrière intellectuelle et qu'on est un peu rentré dans le produit, il n'y a pas de raison après de ne pas l'adapter pour sa famille et pour sa cuisine ordinaire.
Oui, et on s'est rendu compte de quelque chose un peu contre-intuitif sur le marché des insectes comestibles, c'est que souvent lors de la première dégustation, les gens vont être intéressés pour manger des produits dans lesquels l'insecte est visible, comme des insectes apéritifs ou des insectes visibles positionnés sur des chocolats. Alors que si on demande aux gens est-ce qu'ils préfèrent manger un produit avec un insecte visible ou un insecte réduit en poudre, les gens vont répondre avec un insecte réduit en poudre. Mais ce qu'on observe, c'est vraiment le contraire. Et le fait de manger un produit avec l'insecte visible, ça permet déjà d'avoir une expérience ludique et aussi de casser une barrière psychologique autour de la consommation d'insectes. Et ça permet aux gens de dédramatiser le fait de consommer ensuite des produits dans lesquels on va avoir des insectes réduits en poudre.
Alors si je fais un plat de pâtes et que je mette 40 grillons en poudre, parce que c'est un peu comme ça que vous les vendez, je peux me passer des morceaux de viande. J'ai l'apport nutritif suffisant.
Vous allez avoir un apport nutritif et notamment en protéines comparable à celui d'une portion de viande.
Et les végans dans tout ça?
Alors ça, c'est un vaste sujet.
J'ai vu dans Le Monde, ils se sont fendus. Il y a eu un article intéressant avec un débat végan et pas végan. Et ils sont venus vous voir, ils vous en parlent ou ils vous ignorent?
Alors, nous, on, avec les végans, on n'a pas de sujet particulier. Après, la réalité, c'est que normalement, les végans ne vont manger, ne vont par exemple ne pas manger de miel. Donc, à partir de ce moment-là, parce que c'est produit par des abeilles, donc à partir de ce moment-là, manger des insectes, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise avec cette idée-là. Mais j'ai aussi vu des publications qui disent qu'il y a une partie des véganes qui peuvent être intéressés par l'entomophagie, parce que le fait de consommer des insectes, c'est moins de pression sur les ressources, donc c'est moins de déforestation, donc de manière globale, c'est mieux prendre soin du règne animal. Donc c'est un vaste débat. Nous, micronutrices, on ne souhaite pas prendre parti sur ce débat-là et on respecte les convictions des uns et des autres.
Géraldine, question ? Non, me fait-elle de la tête sans dire un mot, ce qui est très, c'est très radiophonique. Vous avez le temps de lire Cédric Auriol, ce qui nous amène, bien évidemment, tout le monde l'a compris, à notre séquence littéraire. Oui, un peu, parce que c'est quand même très prenant, j'imagine.
Oui, c'est très prenant.
Mais... Vous y passez vos journées ?
Je suis passionné. Donc oui. Depuis ces dernières années, c'est vrai que l'aventure, parce que pour moi, c'est une aventure. L'aventure micronutrice est devenue ma vie. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'y passe beaucoup de temps.
Combien vous êtes ? Je vous ai posé la question de la micronutrice aujourd'hui ?
Alors, on est une quinzaine de personnes à travailler sur la ferme.
Oui, ce qui est déjà quand même une jolie PME.
Voilà, une petite PME qui se développe.
Et qui ne demande qu'à poursuivre. Alors, nous revenons à nos livres. Vous m'avez dit, je vais vous parler de Jour barbare de William Finnegan chez les éditions du Sous-sol.
Oui.
Pourquoi ce choix ? Déjà, le sous-sol, on est dans les insectes, là, non ?
Voilà, mais c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Mais ce choix, c'est mon livre de chevet du moment. Donc, c'est l'autobiographie de William Finnegan, qui a été reporter de guerre au New Yorker. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, c'est qu'il décrit sa vie via une de ses passions, qui est le surf. Et où on peut... Alors moi, à titre personnel, je suis surfeur. Et le fait de retranscrire son rapport au monde, son rapport à l'océan, son rapport à la nature et tout son développement personnel autour de cette activité-là, ça me fait passer de très bons moments en soirée.
Voilà. Donc on va rappeler le titre, Jour barbare. C'est un drôle de titre. Pourquoi Jour barbare d'ailleurs ? Est-ce que dans le livre on comprend ?
Mais alors on le comprend. Ce choix. C'est parce que la finalité, il n'y a pas de finalité, mais après sa construction personnelle autour du surf est un peu onirique, et après son métier de grand reporter de guerre fait que la foi qu'il a développée en l'être humain et en la nature humaine est un peu remise en question. Donc cette notion de jour barbare vient de là.
On peut le comprendre. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre. Ça s'appelle Là-bas. Août est un mois d'automne. C'est de Bruno Pellegrino et c'est aux éditions Zoé. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler en réalité. Ça va être ma voix. Mais je vais vous donner un texte que m'a envoyé Nathalie Fontaine qui tient la belle librairie Détour à Naïoux, où je vous conseille d'aller et faire le détour parce que ça en vaut la peine. Et voilà ce que m'a écrit Nathalie sur ce livre. Je la cite. « Sur la couverture, une femme bien mise avec cravate et chapeau. La photographie date de 1925. Cette femme est postée devant la fenêtre d'une maison et nous la regardons depuis l'intérieur. Sur la couverture aussi, un rectangle orange, presque fluorescent, qui nous arrime à notre époque. En exergue, cette citation de Rimbaud, et ouvrons les guillemets, « Quand le monde sera réduit à un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés, en une plage pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai », fermez les guillemets. Bruno Pellegrino, dans ce texte magnifique, intitulé « Là-bas, août est un mois d'automne », qui vient de paraître aux éditions Zoé, évoque les 10 dernières années de la vie commune d'un frère et d'une sœur. L'homme s'appelle Gustave Roud, c'est un poète et traducteur reconnu. Madeleine, sa sœur, est fascinée par la conquête spatiale et excelle dans la confection de gâteaux légendaires. Alors, on ne dit pas s'il y a des insectes dans les gâteaux. Gustave consigne de toute urgence le nom des choses qui prennent fin. Dans son bureau, on trouve des notes sur le détail des nuages, les textures du brouillard, les noms de personnes et de pays, traces de ses lectures, de ses travaux, de ses tristesses, jusqu'aux minutes des matinées oubliées. Et tous deux prennent soin de la maison, du jardin, attentifs à la répétition de gestes séculaires. Nous les suivons de 1962 à 1972. Le roman impose son rythme de lecture et d'écriture, car vous lisez ce texte la plume à la main, tentant de retenir à votre tour ce que vous ne voulez pas voir disparaître. Gustave Roux marche beaucoup, il refait en boucle les mêmes découvertes, revient sans se lasser au même vieux paysage dont il documente patiemment la métamorphose. Une équipe de journalistes vient de Genève afin de tourner un film sur lui. Pour les peintres ou les musiciens, c'est assez facile. On montre l'atelier, les répétitions, vernissage d'exposition. On interroge les collègues. Il y a du tangible, du matériel à exhiber. Pour un poète, la chose est moins évidente. Mais vous, dit le journaliste à Gustave, vous avez la maison. Vous l'avez compris, c'est une citation. Au détour du roman, Bruno Pellegrino évoque le choix du sujet. Il nous dit « J'écris sur des gens qui étaient capables de nommer les choses, les fleurs et les bêtes, alors que j'ai besoin d'une application sur mon téléphone qui identifie les oiseaux par leur chant, les plantes, par la forme de leurs feuilles. C'est peut-être ce qui me fascine chez ces deux-là, leur manière lente et savante d'épouser l'épaisseur des jours. » Évidemment, dans son roman tranquille et profond, Bruno Pellegrino interroge aussi le processus de création. Là-bas, août est au mois d'automne et le roman d'un poète à l'œuvre. Donc, voyez, je crois que je... Elle est très abondante, hein, notre amie Nathalie. Voyez, elle m'a fait un texte, elle a bien travaillé, on la remercie. Bonne lecture de ce livre, je vous rappelle le titre et qu'apparemment Nathalie, qui est une fine connaisseuse, nous recommande chaleureusement. Là-bas, août est un mois d'automne, Bruno Pellegrino aux éditions Zoé. Vous avez le temps un peu de vous intéresser au milieu des insectes, de l'actualité ?
Oui, bien sûr. Oui.
Oui, vous suivez un peu ce qui se passe en France, cette agitation sociale, les universités qui sont en ébullition, la SNCF qui, elle, n'est plus en ébullition puisqu'elle fait grève. Ça vous inspire quoi ?
Mais ça m'inspire quoi ? Mais ça m'inspire que... Mais on est peut-être... Alors, au-delà de l'actualité, moi, je suis convaincu qu'on est dans un monde qui est en fort changement et qu'on est dans une période où le monde d'hier et le monde qu'on projette de demain sont en train de se rencontrer. Et tout changement peut amener des tensions. Et...
Le problème du changement actuellement, c'est peut-être qu'il se fait à vitesse grand V, j'ose pas dire une vitesse de TGV. C'est peut-être ça.
Mais c'est... Après, c'est...
Tout changement implique une adaptation. Il faut du temps pour que les gens en prennent conscience. Difficile.
C'est difficile. De toute façon, par nature, l'être humain est plutôt réfractaire au changement parce que c'est vrai qu'on est assez rapidement dans une zone de confort quand on est dans nos habitudes et dans notre train-train quotidien. Après, moi, j'ai la chance de voyager un petit peu et de voir que le monde est en train de bouger à une vitesse grand V avec les êtres humains qui sont aujourd'hui présents sur Terre. On va devoir faire face à énormément de défis, alors que ce soit alimentaire, comme on a évoqué.
Et là, vous êtes bien placé pour apporter votre touche et votre solution.
Mais aussi au niveau environnemental, social, démographique. Donc, le changement, ça reprend des
Vous trouvez qu'on accueille bien les migrants en France ?
Moi, à mon sens, je trouve que ça me pose beaucoup de questions sur l'accueil des migrants en France. Et je pense qu'une grande nation devrait accueillir les migrants de manière beaucoup plus ouverte parce que j'ai une vision beaucoup plus humaniste du monde qui me fait dire que les frontières ont des limites.
On est bien d'accord et peut-être qu'aujourd'hui, justement, nous ne sommes plus une grande nation. Nous sommes devenus un petit pays. En tout cas, c'est ce que M. Collomb nous donne à penser quand on le voit agir. Rappelons qu'il doit être toujours ministre de l'Intérieur au moment où je vous parle. Géraldine, une conclusion peut-être, vous la spécialiste du goût, vous avez déjà goûté des insectes ?
J'ai goûté les tablettes de chocolat, voilà.
Et alors, résultat ?
Non, c'est intéressant, il y a un petit goût de noisette, un petit goût craquant que j'ai apprécié, mais il me reste à tester la cuisine aux insectes.
Écoutez, voilà, on va attendre que vous nous fassiez quelque chose, on viendra le goûter.
Chef aussi,
hein. Oui, tout à fait. Cédric Auriol, merci d'être venu nous parler de Micronutrice. On va souhaiter bon vent à cette jeune entreprise, mais qui en a sous le pied, si je puis dire.
Et
le besoin est là, vous semblez dynamique, passionné, donc on est absolument certain que tout ça va se poursuivre et s'embellir. On viendra peut-être même vous voir un jour prochain, puisque vous nous avez gentiment invités. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Merci à Géraldine Pellet pour sa participation. Merci à Jean-Louis Arzac qui nous a fait la technique avec son brio habituel. La semaine prochaine, eh bien, on restera un peu dans le même registre. Je vous parlerai du riz de Camargue, puisque j'y pars ce week-end. Et en compagnie du président du syndicat des riziculteurs de la région, nous allons essayer de parler de ce riz, qui est un riz très particulier. Lui aussi, un peu comme nos insectes. Il y a des insectes d'ailleurs dans le riz, hein, on le sait. Et nous essaierons de vous démystifier un peu le riz de Camargue avec un avenir difficile puisque c'est une production qui est un peu en chute. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie ainsi que sur le site de la station. N'oubliez pas, rediffusion demain de l'émission mardi à 11h ainsi que le week-end prochain. Qu'on se le dise, bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.